notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
les grands majeurs des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Storm Cities.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous souhaitions nous excuser auprès de vous pour l'absence de l'épisode New Storm Cities, le podcast, la semaine dernière, du fait notamment des attaques informatiques dont beaucoup d'entreprises ont été victimes. Heureusement, cela n'a pas perturbé notre système et la régularité et le timing de l'envoi et de la réception de nos dépêches auprès de l'ensemble de nos abonnés. Pour cet épisode de New Storm Cities, le podcast, beaucoup d'informations, beaucoup d'annonces qui préfigurent un été où il va falloir rester en veille. Et quoi de mieux que de rester en veille lorsque c'est New Storm Cities qu'il est pour vous. Donc, oui au droit à la déconnexion, faites attention tout de même à ne pas être déconnecté de l'essentiel, puisque vous pouvez, je le rappelle, paramétrer vos comptes, notamment pour avoir une synthèse de l'info et un récapitulatif des infos les plus importantes avec l'hebdo. Au mois d'août, le podcast s'interrompra jusqu'à la troisième semaine d'août, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Sans plus tarder, pour commencer, loi climat et résilience, le titre 4, on l'attendait, se loger, a été adopté en séance publique au Sénat. Alors, il prend en compte les spécificités propres à chaque territoire pour le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation. Il garantit une qualité de l'air intérieur satisfaisante pour les occupants de tous les types de bâtiments. C'est l'ambition. Il étend le champ des actions relevant du projet pluriannuel des travaux aux actions, en tout cas de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est très important, puisque c'est quelque chose qui a été beaucoup, en tout cas, rappelé et exigé, donner la capacité aux coopératives HLM et aux sociétés HLM d'agir comme tiers de confiance au service de la dynamique de massification de la rénovation énergétique. Bon, beaucoup de choses aussi sur les C2E, avec la pondération des volumes, la suppression de la notion de la pleine terre dans la définition de l'artificialisation, et l'introduction d'une définition des sols et de leurs fonctions. Bref, beaucoup de sujets, hein, le classement des friches et espaces délaissés en sols artificialisés, la soumission à autorisation d'exploitation commerciale des entrepôts de commerce en ligne de plus de 5 000 m², beaucoup d'infos. Alors maintenant, on va voir comment vont se passer les discussions avec le texte de l'Assemblée, puis évidemment la CMP surtout, hein, puisque c'est demain, enfin c'est aujourd'hui le 12 juillet, que le texte est présenté en CMP. Si elle n'est pas conclusive, ben, les deuxièmes lectures à l'Assemblée et au Sénat sont prévues fin juillet et en septembre. Et New Storm Cities continuera à faire le suivi, évidemment, de cette loi Résilience Climat à travers l'ensemble de ses titres. Action Cœur de Ville. Alors, c'était le congrès de Ville-de-France. La présidente Cailleux, que nous saluons, a ouvert évidemment ce congrès, hein, maire de Beauvais. Et on y a appris que le programme Cœur de Ville sera prolongé jusqu'en 2026 avec la dépense des 5 milliards alloués, sachant que déjà plus de la moitié est engagée. Cette annonce, c'est Jean Castex qui l'a fait, le Premier ministre, qui, je le cite, dit « Notre travail de reconquête des villes est à l'œuvre ». Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. À cet effet, le programme d'action nationale Action Cœur de Ville ira bien à son terme prévu fin 2002 pour dépenser les 5 milliards prévus. Il se poursuivra, comme vous l'avez souhaité, après 2022 pour permettre aux équipes élues en 2020 de porter leur projet avec l'aide de l'État jusqu'à la fin de leur mandature, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Alors, évidemment, on salue le travail extraordinaire réalisé par Roland Mouchet-Blazeau, hein, qui est en charge du dispositif. On peut citer aussi, pour illustrer cette annonce du Premier ministre, le deuxième prolongement que nous avons donné à Action Cœur de Ville s'inscrira au cœur des CRTE, contrat de relance et transition environnementale, que vous allez signer avec les représentants de l'État, il le dit en le disant aux villes, hein, dans vos départements. Il s'agit d'une démarche innovante déployée dans le cadre intercommunal, lequel doit reconnaître le rôle majeur des villes-centres. Il s'agit d'une démarche intégratrice qui doit faire se rencontrer les priorités des élus et celles de l'État. Donc, y compris tout le suivi sur les CRTE, les chiffres sur, évidemment, Cœur de Ville. Dans ce discours de 1h15, le Premier ministre a fait le bilan du programme d'action Cœur de Ville, bien sûr, mais y compris l'ensemble des actions du gouvernement au service des villes. C'est à retrouver, évidemment, de façon exhaustive sur Newstank Cities, cities.newstank.fr. Ville, centre-ville, Cœur de Ville, évidemment, tout cela a à voir avec le commerce. Et on salue l'élection de la députée Anne Blanc en tant que présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial qui succède, et nous le saluons aussi, avec cette interview bilan que vous pouvez retrouver depuis jeudi dernier sur Newstank Cities de Jean Girardon. Donc bon vent et bonne chance à Anne Blanc. Il y a du pain sur la planche et beaucoup de défis à relever dans le cadre de ce qu'il convient souvent de qualifier comme un casse-tête, à la fois avoir des exigences en termes d'intégration urbaine, en termes prérequis environnementaux, de développement économique et de création d'emplois, de droit de la concurrence. 4D ou 3DS, mais la loi avance, et formidable interview d'Olivier Landel, mené par Erol Yolal, le délégué général de France Urbaine, revient sur l'ensemble de l'actualité, y compris vis-à-vis de la loi ex-4D, aujourd'hui 3DS, sur la loi SRU, la vraie attente des territoires urbains sur le projet de loi 3DS, c'est la promesse de différenciation, nous dit-il. Le seul problème est que les champs sur lesquels le texte initial du projet de loi 4D ouvre la possibilité d'expérimentation à ce stade sont très limités. Nous essayons d'ouvrir plus de portes. Si France Urbaine est en phase avec la proposition d'intercommunaliser les objectifs SRU de logement social de Dominique Estrosi Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, on salue son travail aussi immense. Le délégué général indique que les propositions du Sénat sur l'uniformisation du statut des métropoles avec les autres PCI constituent une ligne rouge. Sur la loi climat-résilience, aussi, France Urbaine souligne de réelles avancées concernant la commande publique, la lutte contre l'artificialisation des sols ou le renforcement des circuits courts et des produits locaux dans le domaine de l'alimentation. On pourra citer les contrats de réciprocité qui sont portés par Johanna Roland au niveau de la métropole nantaise. L'association a obtenu, nous dit-il, de siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui était une attente ancienne. Le texte doit être plus ambitieux. CRTE, PLFR 2022, PLFR 3, expression y compris importante sur les transports. Tout ça, c'est à retrouver sur Newstank Cities et on remercie encore Olivier Landel, toujours pour son exigence sur le fond, sa rigueur et sa précision dans les termes. Loi 3DS, on en est où? Eh bien, on fait le point. 47 modifications visant le logement et l'urbanisme en commission au Sénat. Rien que ça. Surpondérer les logements PLAI dans le décompte SRU, compensé par une surpondération des logements PLS. Mise en place d'un dispositif plus opérationnel, donnant au mécanisme SRU la souplesse nécessaire à l'appropriation de l'action publique. On voit là la patte de Dominique Estrosi Sassone. Faciliter la tenue des commissions d'attribution de logements. Beaucoup. Sur le BRS aussi, faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS. Supprimer la compétence départementale relative à l'adaptation des logements au vieillissement de la population. Les modifications sont toutes listées. Les deux amendements, souvent portés par Valérie Létard, Dominique Estrosi Sassone, toutes mes excuses, notamment sur la loi SRU, c'est à retrouver avec les sous-amendements et le débat qui a eu lieu dans le détail sur Newstank Cities, un travail extraordinaire réalisé par nos équipes. Je salue d'ailleurs toute l'équipe de rédaction qui, en ce moment, est mobilisée sur le sujet. Cassandre Tarvic, Mélanie Longuet, Sébastien Chabas, Benoît Barbedet, j'en oublie, Erol Yolal, évidemment. C'est passionnant. Aminata Si, directrice du CIMI. Tous les actifs immobiliers interrogés sur leur avenir. C'est l'interview. Le CIMI est un événement prospectif et opérationnel qui questionne la filière immobilière. Il doit aider à comprendre les dynamiques des métropoles et mutations de la ville sous plusieurs angles, sociétal, climatique, environnemental, technologique. Nous entrons dans l'ère du multifonctionnel, du partage et de la mixité des usages, à l'exemple de ce que fait Apsis Group. Tous les actifs immobiliers sont interrogés sur leur avenir, y compris les bailleurs sociaux. Le CityCIMI, qui aura sa propre synalytique, cherchera à favoriser le dialogue et les interactions avec les décideurs territoriaux dans les agora dédiées. C'est ce que recherchent les acteurs de l'industrie immobilière. Aminata Si, directrice du salon CIMI, du 8 au 10 décembre 2021 à Paris. On y sera, Newstank y sera, SimiCity, un nouvel événement dans lequel l'immobilier sera abordé par la focale de la ville. Il proposera un parcours urbain sur un étage du Palais des Congrès autour de deux axes éditoriaux, les villes et modes de vie d'une part, l'aménagement durable et le développement territorial d'autre part. Ça s'annonce passionnant, évidemment, Newstank y sera. TFPB Quartier, lancement du groupe de travail sur l'évolution du dispositif taxe foncière sur les propriétés bâties piloté par l'Agence Nationale de Cohésion de Territoire, la NCT, c'est à retrouver aussi, et c'est important, sur Newstank Cities. NPNRU et l'annonce qu'on a eue la semaine dernière sur les 2 milliards supplémentaires aux 10 milliards pour le NPNRU, Programme National de Rénovation Urbaine, a vocation à répondre à deux impératifs, nous dit Nadia Haye, ministre chargée de la ville. Quels sont-ils, ces deux impératifs? Eh bien, prendre en compte la crise sanitaire et aider à concrétiser de nouveaux projets. C'est à retrouver sur Newstank Cities, évidemment. 67% des collectivités souhaitent augmenter leur investissement en 2021. Ça, c'est la Fédération nationale des travaux publics et la Banque postale. 67% des collectivités, 59% des EPCI, 69% des départements et régions et 68% des communes indiquent vouloir augmenter leurs dépenses d'investissement en 2021. Parmi les communes, 100% des plus de 100 000 habitants comptent augmenter leur investissement en 2021. Le détail des chiffres est une vraie lueur d'espoir. Un vrai appel aussi à mobilisation autour des débats sur la situation des finances publiques dans les collectivités, ça s'annonce passionnant. L'expression de Bruno Cavagnier aussi, qui dirige la FNTP, qui en appelle à un plan d'investissement écologique pour le secteur des travaux publics, en disant « plutôt que de subir les lois ou les réglementations successives, nous avons décidé d'être acteurs de la transition écologique et de mener un travail sur l'impact carbone du secteur des travaux publics avec le cabinet Carbone 4 », dit Bruno Cavagnier, président de la FNTP. Le premier constat que nous menons, c'est que l'acte de construire en lui-même, sans l'usage du bâtiment, ne représente que 4% des émissions carbone. Tout ça, c'est à retrouver sur Newstank Cities. C'est prospectif et c'est clairement le débat qui s'ouvre. La question financière, d'une part, la mobilisation des leviers et des moyens d'éco-transition, de l'autre. Plus local, Triangle de Gonesse. Et c'est la communauté d'agglomération Roissy, Pays de France, qui en appelle à sécuriser politiquement les promesses de Jean Castex, notamment sur la base d'un sondage IFOP, où 86% des particuliers et 85% des entreprises sur le territoire sont favorables à la création de la ligne 17 du Grand Paris Express, qui reliera le Ménilmes-Amelot et Saint-Denis-Pleyel. Je rappelle finalement, sur ce sondage qui a vocation à illustrer cette exigence des élus du territoire à ce que les engagements soient tenus, je rappelle ce qui étaient les engagements du Premier ministre Jean Castex à Gonesse le 7 mai 2021. Au total, il y a 17 propositions. Création de la ligne 17 du Grand Paris Express incluant la gare de Gonesse, interconnexion de la ligne H à Saint-Denis-Pleyel, aménagement des 110 hectares au nord de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse, dont une cité scolaire internationale, 600 collégiens et 1500 lycéens, implantation notamment d'une extension du marché d'intérêt national Mines de Rungis, sa plateforme logistique sur la partie sud de la ZAC Triangle de Gonesse, 70 hectares. Toujours au niveau local, Toulouse Métropole, alors c'est passionnant, je vous encourage à prendre le temps d'aller sur cette dépêche, aussi d'aller regarder les projets portés, ce sont les 12 lauréats du Challenge Innovation pour la ville de demain, donc c'était le 2 juillet, vous avez Terrociel qui développe le concept des carrés maraîchers, des fermes maraîchères urbaines rapprochant agriculteurs et aux consommateurs. Vous avez la COP 1000 qui rassemble les acteurs de l'alimentation durable en région toulousaine. Vous avez Applicoli qui, création de relais responsables de proximité proposant le retrait de commandes de produits locaux. Vous avez Sacha, entreprise développement e-bike port, une station autonome solaire permettant de recharger les vélos à assistance électrique. Voilà, Agenium, projet d'auto-essence visant à développer les méthodes de détection automatique des essences d'arbres le long des cours d'eau permettant de produire des cartes de détection géospécialisées datées à partir d'images satellitaires. C'est vraiment incroyable, c'est passionnant là encore. Ça rejoint d'ailleurs ce fourmillement d'initiatives et de mesures intelligentes, à l'instar de ce qui est porté par Emmanuel Grégoire avec les 8 actions immédiates pour une esthétique parisienne. Retirer le mobilier inutile, c'est les 2000 panneaux visés d'ici à l'automne 2021, hein, et supprimer le mobilier inesthétique. Plan de protection et de recensement sera engagé en septembre 2021. Mettre en valeur le patrimoine historique. Pérenniser les coronapistes, végétaliser et habiller les pieds d'arbres, entretenir le mobilier électrique et lumineux. Voilà, il y a de nombreuses mesures, 8 grands champs d'action qui sont vraiment inspirants. Et oui, parce que l'urbanisme ça, et l'aménagement urbain, ça, y compris dans la continuité, ça peut être du beau. Côté entreprise, Enerlys, ouverture du capital à un fonds d'investissement en 2021. Et le mandat est donné à la Banque de Rothschild. On rappelle Enerlys, hein, entreprise accompagnant dans la transition énergétique, collectivités, structures d'État, bailleurs sociaux. L'ouverture du capital, elle est à hauteur de 25 à 30% à un fonds d'investissement connu d'ici à la fin 2021, possible augmentation de capital. L'ambition, c'est d'atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires en 2030, dont 50% à l'international. Croissance par acquisition et organique dans le secteur du résidentiel et tertiaire, industriel et de l'agriculture. Contribuer au développement des SEM énergie et projets publics privés. Tels sont les projets à 10 ans de la société Enerlys sur le marché des solutions énergétiques. Le contexte économique, nous disent-ils, est réglementaire et favorable. Avec la CNBC depuis 2015, la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, les solutions de mobilité durable avec l'hydrogène, la neutralité carbone en 2050, ce sont des marchés en forte croissance en France et en Europe. Et cet horizon à 2050 nous oblige à être dans un état d'esprit conquérant, déclare Aurélie Godière, présidente d'Enerlys. C'est à retrouver sur News Tank Cities, dans le détail et y compris avec toute l'histoire de Enerlys, avec lesquels, je rappelle, nous avions organisé une journée entière, les bailleurs sociaux en première ligne de la rénovation énergétique. C'est, je le rappelle, une journée sur avec 6 podcasts, avec des invités, y compris européens. C'était en septembre dernier, vous pouvez retrouver la vidéo sur cities.newstank.fr. Enfin, pour finir, l'Observatoire des villes vertes. Regain de la végétalisation spontanée constatée dans 9 villes sur 10. Alors, c'est la généralisation progressive de la gestion écologique des espaces verts publics qui est à l'origine d'un regain de la végétalisation spontanée en ville. Hein. Et tout ça, 7 ans après l'adoption de la loi dite AB, 9 villes sur 10 adoptent des techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Le désherbage manuel, 87%, la fauche tardive, 91%. 57% des villes répondantes ont délimité des zones prioritaires de végétalisation spontanée. C'est voilà, les choses avancent. Les services nature en ville relèvent des freins internes et demandent une intégration du sujet au sein d'un projet territorial cohérent, voire formalisé au sein du PLU, ou qu'il fasse l'objet d'une doctrine locale harmonisée. Ce sont les principaux constats qui sont issus de cette enquête annuelle, dont vous pouvez retrouver l'exhaustivité sur News Tank. C'est le témoignage de 37 villes françaises. Assez représentative. Monsieur Bizot nous dit qu'un cadrage apparaît essentiel en amont, car si l'investissement citoyen demeure indispensable pour accélérer l'acceptation, impliquer l'ensemble des parties et démultiplier les effets bénéfiques à ces politiques vertes, un cadrage apparaît essentiel en amont, exigeant du temps et des compétences spécifiques et souvent extérieures, selon Laurent Bizot, président de l'UNEP et co-président, donc les entreprises du paysage, de l'Observatoire. Si vous ne le connaissiez pas, c'est pas la première fois qu'on en parle à News Tank, l'Observatoire des villes vertes, beaucoup de chiffres, un panel qui tend à s'agrandir pour cette jeune structure qui est née en 2014. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et restez en veille sur News Tank Cities, cities.newstank.fr. Bonne semaine à toutes et à tous.